1998.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bienvenue à la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches de 22h à 23h. Ce soir à la causerie, il y a Clara la technique.
Bonsoir.
Il y a Fab.
Salut. Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture.
C'est ça, bonsoir. Alors, la causerie. Déjà, je rappelle, Radio Canu, c'est sur le 102.2 à Lyon et sa région. Et sur radiocanu.org, partout ailleurs. Mmh. Voilà. Pour joindre la causerie, on a un mail. Tu peux peut-être le rappeler, Fab.
lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com.
Nickel. Et on a aussi un blog, sur les blogs de Radio Canu. Vous pouvez le retrouver avec toutes les émissions qu'il y a eu avant, c'est-à-dire 175 autres émissions. C'est sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Voilà.
On a aussi un espace Facebook où vous pouvez nous trouver. Et on va en profiter pour saluer celles et ceux qui nous écouteraient en région parisienne. Pareil qu'il y en a.
Par exemple.
Voilà.
Mais
voilà.
Pas que, hein.
Mais pas que. Et attention. Partout dans le monde.
Oui.
Voilà.
Oh, c'est beau.
C'est beau.
Et
ouais.
Partout dans le monde. C'est génial.
J'ai amené mes paillettes et mes licornes. Ça m'a vachement bien se passer.
T'as garé ta licorne devant.
Bah oui, devant. Attends. Et alors, double fil, hein, faudrait pas qu'on traîne.
Enfin. Oh là là. Dis donc. Alors, on va commencer cette causerie. Par vous lire le communiqué de presse du 2 novembre qui est issu de Radio Canu. Donc je vais vous le lire. Radio Canu perquisitionné à cause d'une blague. Deux animateurs d'une émission musicale de Radio Canu seront prochainement jugés pour provocation au terrorisme. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une lourde amende. Une première pour les radios en France. Le mardi 25 octobre 2016, Radio Canu a été perquisitionné dans la matinée. 5 flics de la police judiciaire et une procureure sont venus saisir l'enregistrement d'une émission du jeudi 20 octobre où deux animateurs ont fait une blague entre deux morceaux de musique punk. Je cite la blague. En ce moment, il y a une manif de flics à Bellecourt. Avis à tous les suicidés, avis à tous les suicidaires, que votre dernier acte de vie soit utile, faites-vous sauter dans les manifs de flics. On vous fera un bel enterrement avec une belle boum. Suicidés, suicidaires, organisez-vous. Oh, mais ils sont là pour nous protéger quand même. Ces propos, tenus donc, que je vous citais, sur les ondes du 102.2 sont au second degré, c'est de l'humour. Confondre terrorisme et satire est apparemment de mise dans une période d'état d'urgence. Dans Cambouis, un fanzine édité par Luz au lendemain du 21 avril 2002, c'est le numéro 9 de juillet 2002, il avait prêté ses propos à Charb. Feu Charb, dirons-nous. Si j'apprends que j'ai un cancer, j'achète une calache, je vais au meeting du FN et je tire dans le tas. Je ferme les guillemets. Ni Luz ni Charb à l'époque n'avaient été poursuivis en justice. Qualifié en terrorisme, ces faits montrent le climat de paranoïa et ouvrent la voie à une répression accrue et ciblée contre les médias alternatifs. rebelle sans publicité, sans salarié. Radio Canu ne demande son CV et ses papiers à personne et fait faire le ménage à tout le monde. Radio Canu est et restera un espace où s'exprimer en dehors des codes de la bienséance académique. Longue vie à Radio Canu et voilà.
Et vous pouvez envoyer vos soutiens à l'adresse mail contact@radiocanu.org.
Et vous pouvez retrouver ce communiqué sur le site de Radio Canu.
Faites tourner,
faites connaître l'info autour de vous, parce que bon, on va pas quand même laisser que BFM et l'Express diffuser cette information avec leur lecture des choses. À nous aussi de répondre et d'organiser la résistance. Hein, en tout cas, c'est une forme de résistance.
Comme ça que ça s'appelle. Donc.
Bah oui. Alors, on va rentrer
dans le vif du sujet.
Bon, on était déjà pas mal dans le vif du sujet.
C'est pour ça que je trouvais bizarre ce début de phrase.
Effectivement, pardon. En tout cas, on va continuer donc la cosy et avec un format un petit peu plus habituel. Et donc Fab, tu voulais nous parler d'une superbe invention.
Oui, alors attendez, je vais essayer de vous faire une petite devinette. Ouais. Je fais 1m50, je pèse 78 kg. Je peux aller au maximum à 18 km/h et je suis bleu et gris. Qui suis-je? Attention. Réfléchissez, amis auditrices et auditeurs. Eh bien, je suis un robot flic. Eh oui, c'est un robot flic qui s'appelle.
Enchanté.
Ben voilà. Pardon, un robot policier. Un robot flic qui s'appelle Handbot. Alors, il est le premier robot antiterroriste et anti-émeute. Voilà. Alors, vous allez me dire, tiens, encore une invention américaine. Eh ben, pas du tout. C'est une invention chinoise. Eh ben oui. Rendons à César ce qui est à César, comme dirait un gars un peu bizarre. Et donc, en fait, c'est un petit robot qui est un petit peu court sur pattes, comme vous avez compris, il fait 1m50. Mm-hmm. Mais en fait, il fait quand même 78 kilos. Et si vous foncez dessus à 18 km/h, en fait, vous prenez quand même l'équivalent d'une voiture, pour vous faire. Il est très compact.
Ah,
ça revient. Bah oui, c'est question taille, poids, masse. Voilà. Donc, il est autonome, le petit. Voilà. Et oui, il est autonome 8 heures pour commencer. Alors, c'est bien parce que c'est l'Université nationale chinoise de la défense qui l'a inventé. Oui, j'ai découvert à travers ça qu'il y avait une Université nationale de la défense.
C'est beau. Il y a plein de choses qui se suivent comme ça. Université nationale et défense.
Ça fait beaucoup dans un seul nom. Alors, ils l'ont dévoilé le 21 avril. Et donc, c'est assez intéressant parce que du coup, quand ils l'ont dévoilé, ils ont quand même affirmé 2-3 trucs. Caractérise ce robot. Alors, ils ont quand même avoué s'être beaucoup inspirés des robots qui étaient dans les films de science-fiction des années 70 et qui servaient de robots anti-émeute dans ces films-là. Et ils trouvaient que l'idée était très bonne, donc ils ont développé cette idée-là. Alors, c'est vrai, parce que si on voit, à la radio, je peux vous montrer de photos, mais si vous regardez les photos, vous avez vraiment l'impression de voir un robot des années 70 dans des films futuristes, où il y avait des robots qui accompagnaient des humains, un truc comme
mais
ça.
Mais il ressemble pas aussi un petit peu...
À R2-D2.
Oui, c'est
peu,
ça, un truc, voilà.
Ouais, il est un petit peu...
Non, en tout cas, non, c'est pour donner un ordre de...
Oui, il est compact et obloïde, comme on dit, il est en forme d'ogive, quoi, et voilà. Et donc là, il a 8 heures d'autonomie, il peut aller à 18 km/h en vitesse maximale, mais par contre, quand il se balade tranquille pour voir s'il y a des émeutiers ou des terroristes, il le fait à 1 km/h, faut pas déconner. L'université l'a déjà dit, 8 heures d'autonomie, c'est pas suffisant. Donc on va passer à 48 heures assez rapidement, parce que c'est une nouvelle batterie. Je vous rappelle que la Chine est le détenteur de tous les brevets des batteries quasiment de portable ou autre, et qu'ils font énormément de recherches dessus, parce qu'en fait, c'est un peu l'énergie du futur. Donc voilà. Comme il n'y aura plus de pétrole, il y aura de l'électricité, mais donc il faut des batteries. L'université a déjà dit, vous inquiétez pas, 8 heures, c'est les premiers pas. Mais il est totalement autonome. Alors, il est autonome comment? D'abord, il se débrouille. C'est-à-dire, quand vous le lâchez, il a un mode, entre guillemets, comme ils disent, alors j'aime beaucoup... Ils lui ont mis une synaptique humaine. Alors attention, une forme d'intelligence artificielle qui réagit à peu près comme réagirait un humain. Bon, alors un humain policier en Chine, quand même. Je rappelle, c'est pas un humain de base. Donc, ils lui ont mis en fait des capteurs qui miment le cerveau, les yeux et les oreilles humaines. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils estiment qu'il ressemble un peu à un humain. Il entend comme un humain, il voit comme un humain. Et il a des réflexes un peu comme les réflexes humains. Alors c'est intéressant parce que on voit que c'est le début de l'intelligence artificielle appliquée aux militaires et aux paramilitaires et aux policiers. Et là c'est inquiétant parce que pour l'instant le robot il a été présenté dans sa formule dite avec joypad. Je vous jure qu'ils ont mis ça, joypad, normalement c'est une joystick sur des consoles. Où en fait il est piloté par un policier.
Oui, comme des drones.
Comme un drone, voilà. Sauf qu'en réalité il a pour but à terme d'être totalement autonome et de prendre lui-même ses décisions. C'est ça qui fout la trouille. Il a des rotations, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez un équipier, comme ils disent, en réalité, vous en achetez 3. Parce qu'en fait, comme il a 8 heures d'autonomie, attention, 3 fois 8,
24.
Et ben voilà, comme ça, 24 heures sur 24, vous avez des robots qui tournent. Et quand le robot arrive en fin d'autonomie, l'autre démarre. Et
il fait une transmission de service.
Voilà. Et donc, il le fait automatiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il est, c'est ce qu'ils disent, à une demi-heure de fin d'autonomie, il se rapproche de la base et un autre robot part. Et ainsi, vous tournez comme ça sur 24 heures avec tout le temps des robots dans la rue. Vous voyez, c'est bien pensé hein, quand même, ça fait un peu peur. Alors, je vous rassure, pour l'instant, il n'est équipé que d'un taser. vous êtes rassuré là d'un coup.
Mais hein, grave, là,
moi,
on est...
Moi, j'étais super rassuré. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est qu'un taser. Non. Ouais. On va arrêter de déconner. Il a déjà équipé d'un outil, alors il s'appelle ça un outil électrique de contrôle des émeutes.
C'est bien dit.
Voilà. Alors, c'est un petit peu. Si, c'est bien dit parce qu'en fait, tout le monde a pensé à un taser, comme moi d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que ça, parce qu'a priori, il a aussi une matraque électrique. C'est-à-dire, vous savez, c'est un bâton qui sort et qui envoie des grandes décharges électriques et des châtaignes. Et là, c'est totalement différent parce qu'en fait, ça contrevient à la Convention de Genève. Voilà. Parce que c'est quand même ça qui est important. C'est que je vous rappelle que le taser est déjà très limite vis-à-vis de la Convention de Genève, parce qu'on estime que c'est un outil de torture quelque part. Et là, en fait, cet outil-là, il est clairement en dehors de la Convention de Genève, et la Chine présente ça comme une avancée dans le contrôle de... Alors, voilà. Et puis, bon, quand même, ils ont avoué que, oui, ils pouvaient être équipés d'armes létales. Donc, on peut aussi l'équiper avec des trucs qui tirent des balles qui tuent. Voilà.
C'est cool.
Ouais, cool, je sais pas, mais...
Non, c'est très ironique.
Mais voilà, ouais, non, mais c'est... Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu... C'est un peu flippant de voir ça, parce que c'est très avancé, hein. C'est-à-dire que, jusqu'à maintenant, on pensait que cette robotique-là, elle n'était pas du tout... au point, et en fait on se rend compte qu'elle est plus qu'au point parce que le robot existe aujourd'hui.
D'accord, oui. Et je voulais savoir, il y a des pays qui sont intéressés par ça, parce que bon, tout est commerce. Donc,
ah bah oui. Alors déjà, je vais te dire, la première chose, c'est qu'il est présenté sous sa forme humaniste. C'est-à-dire que si on fait ce robot, c'est parce que les méchants émeutiers, ils tuent les policiers. Donc, le robot, il évitera que les policiers soient tués. Je vous rappelle qu'on n'a pas parlé de pas tuer les émeutiers dans la phrase.
Oui.
Voilà, donc c'est juste, on nous présente ça comme étant une protection pour les policiers. Je ferai le lien avec des trucs qui se passent en ce moment en France où des gens veulent être protégés. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce petit robot, on pensait, les observateurs, surtout notamment Amnesty International ou Human Rights Watch, pensaient que c'était un peu chinois et que chinois. Et en fait, on se sont rendu compte qu'il y a une quarantaine de pays qui sont aujourd'hui intéressés par cette technologie, dont beaucoup de pays européens. Alors, la Chine refuse, parce que c'est secret défense, de dire quels sont les pays qui sont intéressés. Et c'est très très dur de le savoir, alors ce serait un peu bizarre de donner des noms comme ça, mais quand même ils ont admis que oui, il y avait au moins 40 pays effectivement qui les avaient approchés pour cette technologie de robots anti-terroristes et anti-émeutes. Alors c'est un peu bizarre parce que ça rappelle un petit peu la robotique, vous savez, anti-bombe à une époque, c'est-à-dire qu'on a inventé des robots démineurs, ce qui est une très bonne chose demeurant, hein, parce que ça vaut mieux envoyer un robot qu'un être humain pour déminer. Et en fait, ces robots, dans certains pays, ont été détournés pour devenir des robots poseurs de bombes. Vous savez, on les envoie pour faire l'inverse de ce pourquoi ils ont été créés. Et là, on est un peu dans la même logique. C'est parce qu'en fait, à l'origine, ce robot, il avait été pensé pour être un robot de secours. Et en fait, il a été totalement détourné de sa fonction première pour devenir un robot d'oppression, quoi. Donc voilà. Et, alors, je dis ça parce qu'en fait, pour reprendre les termes j'ai perdu son nom. Totalement, mais ça ne me reviendra pas. En fait, il ne faut pas avoir peur de la robotique en elle-même, il faut avoir peur de ce qu'on en fait. Parce qu'en fait, en réalité, la robotique, ça fait partie de l'humanité. Hein. On a toujours utilisé des choses comme ça. C'est pareil, l'intelligence artificielle, on sait que ça va arriver, mais après, il faut savoir ce qu'on en fait, quelles règles on lui met. Et en fait, là, on se rend compte que on est plutôt sur une optique très répressive. Tout simplement, il faut être très clair, parce que ceux qui ont le plus de fric aujourd'hui, partout dans le monde, ce sont les militaires. Et qu'eux, ils ne développent pas des trucs pour le bien de l'humanité. Donc, c'est pour ça que les premiers trucs en robotique, comme on dit, autonomes qui sortent, bizarrement, c'est des armes, quoi. Mais dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, c'est les guerres qui font, entre guillemets, progresser la science. Je dis ça avec beaucoup de cynisme. Mais c'est lié à une seule et unique chose, c'est la façon dont on répartit l'argent et que là, pour l'instant, on donne l'argent à l'armée. Donc forcément, elle en fait des trucs pas terribles. Quoi.
Bah, à voilà. Son service, à elle.
Oui,
quoi.
À son service.
C'est ça.
Voilà.
C'est
donc, ça. Je vous invite à aller fouiller sur Internet. Il y a des vidéos du monsieur Handbot. Alors, ça s'écrit A-N-B-O-T. Voilà. Et vous verrez que ça fait vraiment flipper. Parce que moi, honnêtement, ça m'a vraiment impressionné. Je me suis dit, alors, si moi, je me retrouvais demain dans une manif avec ça en face de moi, je ne sais pas vraiment comment je fais. Alors oui, j'ai oublié de dire, il est ignifugé, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez jeter tous les cocktails Molotov que vous voulez dessus. Il s'auto-éteint. C'est-à-dire qu'il a même un système d'auto-extinction. Non, mais il est vraiment très bien pensé. Hein.
Mais c'est là où tu te dis, ouais, finalement, ça dépasse tout parce que ça permet à l'État, quel qu'il soit, de se défaire de fonctionnaires, finalement.
Ouais, ça.
Parce que c'est la même logique que ce qu'il y a eu dans les usines, etc.
Puis un robot, ça se retourne pas contre son maître.
Ça se retourne jamais.
Alors potentiellement, un être humain peut dire non, cet ordre-là, je
peux déposer
pas.
Les armes, voilà. À la rigueur. Ouais. Et ouais, effectivement, c'est.
Non, mais voilà, c'est. Vous voyez, voilà, je voulais juste parler de ça ce soir, histoire de vous mettre dans un bon move pour la fin de la semaine.
C'est réussi. On passe à la ZIC ?
Eh ben, allez, c'est parti, un vieux titre. Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et c'est dimanche, c'est donc normal que nous soyons là. Et voilà.
Ça se tient.
Ça se tient. Et c'était un vieux titre de Kraftwerk, voilà, et avec The Robots. Et comme ils le disent dans la chanson, nous faisons ce pourquoi vous nous avez programmé, les robots.
Ce
ne sont que des outils. Et ne pas se dire qu'ils sont tout de suite autonomes, parce que ce n'est pas vrai encore. Voilà. Et Jean-Yves, tu voulais nous parler de deux sujets d'un coup. Parce que tu t'es dit ce soir, allez, deux sujets d'un coup.
Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas forcément en lien, ou c'est en lien. Enfin bon, je sais pas forcément en lien, mais quand même. En fait, le premier sujet, c'est une pétition en fait, qui est lancée par l'Association de mémoire traumatique et victimologie. La présidente, c'est Muriel Salmona, je crois que je vous en avais déjà parlé. Autour du documentaire longtemps après peut-être, et de l'inceste, etc. Et donc en fait c'est une pétition qui demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Il y a 20 assos et ONG qui sont déjà co-signataires. Vous retrouvez tout ça sur Stop aux violences au pluriel donc .blogspot.fr. Et je vais juste vous citer les 6 raisons qui sont données dans cette pétition, en tout cas pour aller dans le sens de cette imprescriptibilité. Donc la première raison, c'est en raison de son très grand nombre, ce sont des crimes de masse. En janvier 2016, selon une étude, il y aurait 5 500 000 femmes environ et 1 600 000 d'hommes, donc au total 7 millions de personnes qui ont été victimes de crimes sexuels, on peut le dire comme ça. La deuxième raison, c'est en raison de l'impunité quasi totale dont bénéficient les agresseurs et de l'absence de protection et de reconnaissance que subissent les victimes. La troisième raison, c'est en raison de la qualité des victimes, qui sont principalement des enfants, des femmes, des personnes en situation de discrimination. La quatrième, c'est en raison de leurs effets à très long terme, bien plus que les délais de prescription actuels, et de la particulière gravité des conséquences de ces violences sur la santé, sur la vie des victimes. La raison cinquième, c'est en raison de la fréquence d'amnésie traumatique, qui peuvent durer plusieurs années, voire des décennies. Quand elles retrouvent la mémoire des violences sexuelles qu'elles ont subies, il est souvent trop tard. Et en raison du déni, de la loi du silence et de la tolérance qui règne sur ces violences, ce sont suffisamment de bonnes raisons, en tout cas me concernant, pour vous inviter à aller signer donc cette pétition. Encore une fois, c'est prendre clairement conscience de l'ampleur en fait de ces choses-là. Donc voilà, et sinon donc ça se passe donc sur stopauxviolences.blogspot.fr, et le site de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, c'est www.mémoiretraumatique.org.
On mettra tout ça sur le blog.
Oui, et à la rigueur je le rajoute comme ça, c'était pas forcément prévu, mais je trouve que ça tombe vachement en rapport avec... Alors je sais pas si on peut appeler ça une mesure qui a été faite auprès des hommes, dont 30% dirait que si... Il n'y avait pas de risque à violer, il violerait sûrement.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, je trouve que c'est suffisamment parlant, peut-être.
Ça m'a failli me faire vomir, moi, en le disant.
Ouais, c'est ça.
J'ai eu un goût mauvais dans la bouche, comme on dit.
C'est ça, donc je trouve que, voilà, hein, peut-être que raison de plus qu'ils comprennent bien que, t'as peut-être envie de violer, mais tu vas vraiment pas le faire. Tu vois.
Mais ce qui est terrible, c'est que ça veut surtout dire que si on enlève la loi, c'est ça qui moi m'inquiète le plus, c'est-à-dire que la seule chose qui arrête certains, c'est le fait de risquer quelque chose.
Oui,
c'est juste ça qui est dingue, quoi.
Raison de plus d'augmenter, virer complètement toute prescription, pardon.
Mais ça pose plein de questions sur comment on mettrait une société différente de celle d'aujourd'hui.
Ouais.
C'est voilà. Non, mais ça pose vraiment plein de questions.
Clairement. Ouais. Donc voilà pour ce premier petit sujet. En deuxième sujet, alors je vais faire court, j'ai longtemps hésité avant de l'aborder, je l'aborde pas, et quand même...
Alors, n'a rien à voir, disons.
Ah non, ça n'a absolument rien à voir, ouais.
C'est plus léger, même, disons.
Oui. En fait, c'est sur Rebellion, parce que j'y passe quand même de temps en temps, j'ai vu un article qui est au sujet du Petit Paumé, et l'article c'est « Sexisme, culture de viol, le Petit Paumé s'est-il totalement perdu ?»
Alors rappelons que le Petit Paumé est un guide gratuit de la ville lyonnaise,
c'est ça,
qui est remis chaque année en grande pompe sur plusieurs places lyonnaises.
C'est exactement voilà. Ça. Donc cet article, il date du 3 novembre avec une mise à jour le 5. Enfin bref, donc effectivement, il y a détaillé la culture du viol qui peut être disséminée au gré des pages, l'apologie du plus du plus crade du porno, effectivement, et que, avec plein de gentils trucs pour... j'ai même pas envie de les citer, mais pour des boîtes qui soi-disant font de l'amateur, mais ça reste de l'industrie pornographique. Mmh. Et je voudrais rappeler à cette occasion que la première femme qui a joué dans un porno, c'était un viol, c'était dans Gorge Profonde. Ça peut peut-être donner une image un peu de ce qu'est cette
moins
industrie.
Glamour.
Ouais, moins glamour, ouais, vachement moins. Pardon, et je m'écarte, donc aussi que les femmes considérées, qu'elles sont considérées comme des objets sexuels, effectivement, il y a plein de trucs... qui sont évoqués, qui sont très justes. Hein. La prostitution aussi, qui est présentée comme une balade touristique. Alors bon, il dénonce dans cet article qu'elle serait un métier comme un autre, ne serait pas un métier comme un autre. Donc je ne suis pas toujours les positions de rébellion, je ne comprends pas vraiment où ils sont, mais ce n'est pas grave.
C'est la pluralité aussi.
C'est la pluralité, effectivement. Ils citent aussi une équipe de rédaction en roue libre, etc., pour leurs propos qui sont...
C'est des gros bofs.
C'est ça, c'est des gros bofs. Donc après, c'est très bien, moi, qu'on dénonce effectivement cet ouvrage. Moi, plus ce qui m'étonne, c'est la présentation de cet article qui dit « Cette année, le petit paumé a bien changé ».
Alors moi, j'ai toujours lu de la merde dans le petit
paumé. Et alors qu'en 2014, une rubrique pour toi lyonnaise faisait timidement son apparition sur le site, l'édition 2017 fait fi de cet essai de féminisme en se vautrant allègrement dans le machisme le plus banal.
Est-ce que je peux dire un truc?
Vas-y.
C'est qu'en 2014, c'était pas du féminisme. C'était un truc ciblé, genre, hé, Bobonne, ça c'est pour toi, quoi. Parce que si vous regardez la rubrique qui était, alors on n'est pas dans le féminisme.
Ah, hein. Il faut te culturer, il faut que tu fasses du shopping et un coin, ouais. Un potin. Voilà, mesdames, un petit peu à quoi vous êtes donc. Réduite, hein. Et que bon, ça c'était soi-disant une avancée, je ne le pense pas. Voilà, donc je suis un peu étonné qu'on puisse s'étonner du côté bof en fait de ce truc complètement machiste, patriarcal. Alors aussi pour resituer quand même un petit peu pour les gens qui connaissent pas, parce que avant que j'arrive à Lyon en fait, hein, on sait pas ce que c'est, hein, quand
oui,
même, ce petit paumé.
Juste c'est gratuit, hein, le petit paumé.
Oui, alors c'est
gratos.
C'est gratuit, voilà. C'est entre 300 et 400 pages, hein, ça sort tous les ans. C'est donc un guide, on va dire, de la vie lyonnaise, alors qui est strictement commercial majoritairement. Alors ils font 2-3 trucs pour des assos, c'est normal, il faut toujours un petit peu se dorer le truc.
Ça fait bien, quoi.
Bah oui, c'est toujours bien. Le charity business. Et donc voilà, donc l'idée c'est 400 pages de critiques sur les meilleurs et le pire des établissements de Lyon. Ça va des restos aux boîtes de nuit en passant par les boîtes bien évidemment libertines parce que c'est sulfureux.
Ça nous donnait du frisson.
Oui, et cette année aussi ils ont évidemment donc comme le dit sur Rebellion et que le dénonce très justement, ils ont aussi fait un tour de la prostitution lyonnaise hein, qui est catégorisé par ethnie, etc.
Ouais, ouais, c'est ça, ils ont fait un safari de la prostitution.
Ouais, c'est ça, un safari de la prostitution.
Ça,
en fait. C'est ça, c'est un commerce, quoi. Ouais, on fait un tour de la matière.
Puis tu réduis les prostituées à des animaux, c'est génial.
C'est ça, l'objetification des gens, des choses.
La chosification
des gens. Enfin bref, et donc, quand même, pour rappeler ce journal, enfin ce guide donc de 300-400 pages, c'est fait par une association qui est la première association d'étudiants, enfin l'association, pardon, d'étudiants en première année et en deuxième année aussi, de master de l'EM Lyon.
C'est l'EM Lyon ?
Alors,
mais qui est l'EM Lyon ?
C'est la business school en fait.
Oh !
C'est une business school, vous voyez ? Donc c'est plein de gens super cool hein, qui seront bientôt chefs, patrons, tout ça, hein, entrepreneurs.
Et dans la com des entreprises.
Et dans la pub. Com, effectivement, tout ça. Donc voilà, donc avec un budget aussi de 650 000 euros.
Pour le petit paumé.
Je veux dire, Radio Canu, l'année c'est 50 000 euros, 60 000 euros. Et c'est très dur de boucler.
Dont la moitié est versée par les animateurs et animatrices.
Et donc ce guide gratuit, hein, évidemment, il est à 650 000 euros le budget, et donc est financé par...
La pub.
Évidemment. Voilà, donc la pub, donc on va critiquer des gens pour qui ensuite on fait de la pub, mais tout ça, évidemment, attention, ils sont super organisés, il n'y a aucune malversation possible, hein.
Non,
c'est bien connu, ils sont 30 pour faire plein de tâches. Donc forcément, il n'y a aucune croisée entre ceux qui veulent faire de la pub, ceux qu'on va tester, etc. Non, évidemment. Enfin bref, donc moi je suis étonné qu'effectivement Rebellion soit étonné qu'en fait un outil...
Ah, c'est pas Rebellion, c'est l'article.
L'article en tout cas, oui pardon, l'article, ouais. par le comité de rédaction, se soit surpris qu'un truc qui vienne d'une business school, fait par des étudiants, alors bénévolement, mais avec un budget de 650 000 euros, dissémine du patriarcat, du sexisme.
Bah, il dissémine ce qu'il y a déjà dans la pub aujourd'hui. C'est des pubards, hein, c'est des futurs pubards et des futurs directeurs de RH et compagnie, quoi, du business, comme on dit.
C'est ça, c'est ceux que demain on devrait combattre dans la rue et dans nos entreprises. Ouais, qui aujourd'hui on se demande, oh là là, mais c'est bizarre, ils ont fait un truc un peu sexiste. Oui, tu diriges une société,
on va rappeler quand même que le petit paumé, il a 48 ans cette année, il est né en 68.
C'est ça.
Et en fait, ça fait des années qu'y compris des restaurateurs, des lieux de nuit ou autres disent moi je ne veux pas être dans ta saloperie là, parce qu'ils s'estiment salis par le fait d'être, alors attention, c'est pas le fait d'être critiqué, hein, ils s'en foutent, ils sont sur d'autres sites de critique, c'est le fait d'être dans le petit paumé, parce qu'il y en a plein qui disent non, ton truc c'est un torchon et je veux pas que mon nom apparaisse dans ton torchon, parce que c'est vraiment quelque chose de beauf, de tout ce que certains ici ne veulent pas voir vivre, quoi. Et il y a un moment donné, il faut quand même arrêter de se leurrer. C'est quand même fait pour aguicher le client, quoi.
Ben oui, c'est donc, du business, en fait. Moi, je suis étonné de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on s'étonne, c'est comme si on s'étonnait que, je sais pas, TF1, Canal+, fasse de la merde sexiste et tout ça. Ben non, en fait, c'est tous les jours, en fait. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme. Ouais. Alors, on peut le dénoncer, évidemment, mais ça fait 48 piges. Donc, moi, je suis vraiment étonné de ça, et je suis encore plus étonné par la conclusion qui s'est de cet article, donc, qui est « Cher petit paumé, nous espérons que tu retrouves un jour ton chemin. En attendant, pour cette année, la poubelle sera le tien. » Bah, j'ai envie de conseiller à ceux qui nous écoutent ce soir, ne le prenez jamais et laissez-le toujours
Mais laissez-le crever, quoi.
Mais oui, en fait.
Parce qu'en fait, il ne fonctionne que parce que les gens le prennent.
Mais oui, c'est ça que je saisis pas. Et si vous voulez aller dans un resto, ça s'appelle essayer les choses, prendre des risques. Oh, c'est risqué, hein, des fois, d'aller dans un resto ou dans un bar sans qu'on connaisse. Oh là là.
Ouais, puis en plus, alors, même sans ça, c'est qu'il y a aussi un truc qui marche bien, c'est les discussions entre amis.
Mais oui.
Dans la famille, je veux dire, il y a quelqu'un qui vous dit, moi, j'ai testé ce resto, il était bien. Voilà, et teste-le. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin. Moi, tous ces guides, ces machins où on note et machin, ça me saoule. Je trouve.
Oui.
Là, puis en plus, c'est une sorte de petit pouvoir un peu dictatorial là, derrière ton clavier quand tu mets tes petites étoiles. Enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin,
ouais.
Alors que ce qui ne vous plaît pas à vous peut plaire à quelqu'un d'autre, et puis c'est comme ça.
Enfin. Ah oui, non, mais alors moi, de toute façon, je dis pas tout que le petit truc là, il ne doit pas exister. Je m'en fous, en fait.
Oui, c'est ça, juste qu'il faut s'en foutre, en fait.
Selon mon positionnement politique, oui, je sais que dans cette merde-là, je ne trouverai pas grand-chose qui m'intéresse. Déjà, ce n'est que des choses commerciales. En fait, moi, je me laisse un peu des fois aller au gré de mes promenades dans la ville ou autre pour se dire, tiens, je pourrais faire ce resto. Enfin, c'est aussi tout ça que ça mène derrière, je trouve.
Ou cette boîte de nuit,
tout ça, quoi.
Ou ce lieu, ce bar, ce machin.
Voilà, mais bon, effectivement, ils apportent tellement d'éléments en plus sur les boîtes à cul, etc., que ça fait bander le lecteur.
Quand tu lis le truc, c'est minable, franchement.
C'est ça.
Pour ceux qui voudraient découvrir, ils ont un site internet, vous allez y faire un saut.
Oui, c'est ça.
Enfin, c'est vraiment du bas de gamme, quoi. Enfin, t'as l'impression de lire la presse des années 70, quoi. Enfin,
c'est ridicule. Et je voulais rappeler quand même que, en étant allé faire un tour sur le site internet de ce guide, la rubrique pour toi lyonnaise, depuis 2014, elle n'a pas vraiment beaucoup avancé. Donc c'était juste effectivement peut-être un essai, mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de s'étonner que les choses capitalistes disséminent des choses
merdiques.
Voilà. Bon, et vu que c'est une école de commerce, je crois qu'il y a Édouard Nénez
qui a un truc à nous dire.
Dis, qu'est-ce qu'il dit ?
Pas de moi, scélérat, mais voué à l'actionnariat. Elles sont cruelles, elles sont perverses, brûlons-les
ça déménage, c'est pas long, mais ça déménage. Alors, c'était donc Édouard Nénez et les Princes de Bretagne avec le titre Incendie pour cent.
Quel jeu de mots.
Ils sont balèzes.
Et je vais dire un truc qui me passait par l'esprit, c'est tu as le droit d'avoir fait une école de commerce, mais tu as le droit de changer de voie après.
Ah mais évidemment, mais attention, oula.
Non, mais parce qu'on va recevoir encore des courriers, des trucs, moi et tout.
Oui, je sais bien.
Donc je précise, parce que bon... Ouais.
Non, c'est vrai. Tu crois que j'étais un peu trop? Vous croyez que j'étais
un peu
trop?
Non, c'était juste pour...
Non, mais évidemment.
J'ai pensé pendant la chanson.
On a le droit d'avoir fait des choses... Et à l'instant T, par contre, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Exactement.
C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais maintenant. Pardon. Donc, troisième sujet et le dernier, c'est Fab. Tu vas nous parler d'un truc sans trop grande importance.
Et si je m'en montais encore le moral? Je me suis dit ce soir, je vais faire dans le léger. Donc là, je vais vous parler d'un truc qui n'a aucune importance et qui n'aura aucune incidence sur notre vie et sur celle de nos descendants.
Aucune.
En fait, je vais vous parler de la fonte des glaces. Alors, les gens vont dire, ah, bah, c'est plus l'été, les cornets.
Non, tout ça, la glace pilée, tout ça.
Non, la fonte des pôles, en fait, et surtout du pôle Nord.
Ouais.
Alors, pourquoi? C'est important. Ça a l'air comme ça. Alors, il y a plein de gens qui trouvent que ça n'a aucune importance, parce qu'ils disent c'est loin, on s'en fout. Mais en fait, en réalité, le pôle Nord, c'est ce qui régule, concrètement, toute la météorologie de l'hémisphère Nord. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais en fait, c'est lié simplement aux effets, ce qu'on appelle les effets de masse. C'est-à-dire que si vous avez un pôle Nord froid normalement, eh ben, il stabilise en réalité la température globale de votre hémisphère Nord et vous avez moins de typhons, moins de trucs comme ça. Et si vous avez un pôle Nord plus chaud, eh ben, en fait, par un effet d'air, en fait, parce que l'air se balade, eh ben, du coup, ne te marre pas quand je parle. Et donc, du coup, bah, s'il fait plus chaud au pôle Nord, en fait, vous allez avoir plus de typhons, plus de tornades, plus de choses comme ça. Et en fait, les spécialistes, et notamment la NASA, qui a lancé une énorme enquête sur le pôle Nord, aidée en fait par l'Agence européenne aussi de l'espace, ils ont lancé 5 satellites pour surveiller le pôle Nord. Parce qu'en fait, la NASA comme l'Agence européenne, il faut savoir qu'ils collaborent extrêmement bien ensemble, contrairement à ce que les gens croient. Ils se sont rendus compte que ça avait été beaucoup plus rapide et pire que ce qu'ils pensaient. Alors, qu'est-ce qui était pire et plus rapide? En fait, c'est la fonte, mais surtout la reformation des glaces qui se fait beaucoup moins qu'avant. Et en fait, aujourd'hui, vous avez quasiment des zones qui étaient avant prises par la banquise, qui sont en fait des zones où il y a une glace, qu'on appelle une glace légère, c'est-à-dire que vous voyez même les vagues, vous savez, ça fait comme des glaçons sur la mer, au lieu d'être une banquise dure. Alors, les gens vont vous dire, ouais, bah, c'est pas grave, on s'en fout, voilà, les bateaux ils pourront passer, ça évite d'avoir des brise-glaces.
Non, ce que je voulais dire, je sais pas si t'allais en parler, mais c'est de la vidéo justement qui a été faite
sur le site de la NASA.
Sur le site qu'on retrouve, où justement c'est en image accélérée, dirons-nous, de 80.
Je crois que c'est 86
à aujourd'hui, où effectivement c'est fixe sur le pôle Nord. Et bien, effectivement, ça fout le camp, quoi.
Oui, parce qu'en fait, alors, pourquoi, en fait, parce que des gens, des fois, me disent, mais pourquoi la NASA s'intéresse à la Terre? Mais en fait, on n'envoie pas des satellites que pour regarder plus loin. Des fois, on envoie des satellites pour regarder la Terre, et ça permet de voir d'en haut, et du coup, d'avoir une vue d'ensemble, et c'est là que ça devient un petit peu inquiétant. Parce que ce que des spécialistes de la glaciation avaient remarqué sur le terrain, en fait, c'est confirmé par les images satellites, et surtout, c'est confirmé à grande échelle. Alors, je disais, il y a des gens qui disent qu'on s'en fout, mais en fait, je vais vous rappeler d'abord que au pôle Nord, il y a de la vie. Alors, déjà, il y a des animaux, déjà, et notamment les ours blancs, hein, parce que tout le monde aujourd'hui parle de l'ours blanc, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi les phoques, il y a aussi les morses, voilà, qui en fait n'ont plus d'endroit pour se poser. Parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de se reproduire sur la banquise ou d'avoir leur période amoureuse sur la banquise ou de se nourrir à partir de la banquise, comme c'est le cas des ours blancs. Et moins vous avez de banquise, et plus ces espèces en fait tendent à disparaître très rapidement, par épuisement souvent, parce qu'en fait, elles sont obligées de nager beaucoup plus longtemps pour aller d'un point A à un point B, alors qu'avant elles marchaient, et que nager, c'est plus fatigant que marché en réalité, et que donc du coup elles disparaissent, elles meurent, et puis surtout elles ont de moins en moins d'espace pour manger, pour avoir un territoire, et donc il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de surpopulation, qui fait que elles s'éteignent doucement et violemment, en fait, parce que je dis doucement dans le sens où ça se voit pas tout de suite, par contre violemment, parce que quand ça va se voir, ça vient d'un coup. C'est un peu ce que les spécialistes appellent Le point de non-retour, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, et c'est le moment où en fait, eh ben, vous voyez une population complète disparaître et elle ne réapparaît pas l'année suivante parce que ben il y a plus l'espace suffisant. Et puis ben, il y a aussi des êtres humains qui habitent, hein, je le rappelle, au Groenland. Hein, c'est Groenland, c'est un petit peu au pôle Nord. Et ben, ces êtres humains, ils sont confrontés de plus en plus à des problématiques qu'ils ne rencontraient pas, ben, parce qu'il y a plus de glace et en fait tout leur habitat et tout leur mode de vie était basé sur le fait que ben on était glacé 7 mois par an, hein, à l'endroit où ils se trouvaient, et c'est plus le cas. Ils ont aussi les ours qui viennent les visiter dans les villes parce que du coup bah, il n'y a plus de territoire, donc ils cherchent à manger, donc ils viennent faire les poubelles, et un ours blanc c'est un petit peu impressionnant et ça peut être un petit peu mortel quand même. Ils ont aussi une problématique qu'ils ne rencontraient pas, c'est que l'été ils ont énormément de moustiques qui n'existaient pas à une certaine époque parce que l'été était très court, donc voilà, on voit un dérèglement de la vie humaine là-bas, et puis ça les rend de plus en plus dépendants des importations parce qu'en fait eh ben, le mode de vie traditionnel ne peut plus s'appliquer, donc ils sont obligés d'importer toute leur bouffe, et il arrive un moment où, quand vous dépendez que de l'extérieur, bah vous avez un léger problème de survie, vous aussi, même en tant qu'être humain, parce que ça veut dire qu'on peut vous arnaquer sur les prix, et c'est quand même pas le PIB du Groenland qui va faire qu'on va pouvoir voilà, s'en sortir.
Et c'est pas la bienveillance du capitalisme qui...
Non, non plus. voilà. Et... Le dernier truc, c'est bah, les courants marins. Parce que ça, c'est quand même la chose que ça, c'est l'impact le plus important. Alors, pour vous essayer d'être simple, imaginez le Gulf Stream, donc qui est un courant qui va des États-Unis à l'Europe, en faisant une espèce de boucle comme ça, en permanence. Et en fait, imaginez que le Gulf Stream, c'est comme des rails d'un train. C'est-à-dire que vous avez de l'eau salée qui se refroidit au nord et qui se réchauffe au sud. Et en fait, ça fait un effet. Elle s'entraîne par sa différence de masse le long d'une sorte de rail permanent. Sauf qu'au nord, pour que ça marche, il faut que l'eau elle soit extrêmement salée et qu'au sud, elle soit moins salée. Et ce qui se produit, c'est qu'en fait, comme les glaces fondent, bah, le nord est de moins en moins salé et le train ralentit. Et quand le train ralentit, enfin quand le courant ralentit, bah, en fait, le Gulf Stream se ralentit. Et en fait, jusqu'à maintenant, c'était une hypothèse. Et bien depuis cette année, on le mesure et on se rend compte que le Gulf Stream a ralenti d'au moins 20%. Les scientifiques estiment qu'il va ralentir de 50 à 60% encore de ce qu'il était au départ. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait qu'en fait, vous voyez Montréal, hein, tout le monde voit où c'est. Puis vous savez qu'à Montréal, il n'y a que deux saisons, comme disent
c'est
tous. Voilà, ils disent, il y a l'automne et l'hiver. Non, je rigole. Il y a l'été quand même à Montréal. Mais en fait, il passe quasiment de l'été à l'hiver. Ouais. Il n'y a quasiment pas d'automne et quasiment pas de printemps. Quoi. Ouais. Et ils ont ce fameux été indien aussi, vous savez. Mais en fait, tout ça, ils l'ont parce qu'ils n'ont pas le Gulf Stream. Et si nous avons un climat totalement différent, notamment à Bordeaux, qui est au même niveau sur la Terre que Montréal, c'est parce qu'il y a le Gulf Stream qui, lui, régule différemment les flux d'air et donc qui nous amène...
Oui, qui joue aussi sur le climat.
Ouais, puis vous savez, le fameux anticyclone des Açores, tout ça, tout ça, enfin des trucs qu'on a inventés pour la télé pour que ça fasse joli, mais parce que l'anticyclone des Açores n'existe pas. Mais tous ces trucs-là, en fait, eh ben, sont régulés en fait, aussi par les courants marins et en grande partie par les courants marins. Et qu'est-ce qui va se produire, d'après les scientifiques, et qui est temps à se produire, ben c'est qu'en fait, il va faire à Bordeaux quasiment le même temps qu'à Montréal assez rapidement. Donc des hivers très très froids et des étés très très chauds.
Je termine.
Non mais donc voilà, parce que en fait, c'est pas compliqué, hein, sur la planète, en général, quand vous êtes à la même latitude, ben, en réalité, vous avez à peu près le même climat, ce qui est logique. Ouais. Là, vous regardez où sont les déserts en Afrique et où ils se trouvent ailleurs. Enfin voilà, ça
mais je me dis que c'est le Bordeaux qui va être dégueu dans les années à venir.
Et ben justement, en fait, les scientifiques, c'est ce qu'ils disent, c'est que le vin de Bordeaux risque de disparaître clairement. Et tout simplement parce qu'en fait, eh ben, quand vous avez des hivers très très froids et des étés très très chauds, vous n'avez pas de vigne. Hein. Parce que la vigne, il faut que ça pousse doucement et ça pousse.
Ouais, mais par contre, ils auront une piste de ski à la dune du Pilat.
Voilà, par exemple. Ah, j'avais une image d'Alain Juppé remontant la dune du Pilat avec un tire-fait, je ne sais pas pourquoi, un peu Bordeaux, ça.
C'est magnifique.
Et donc, du coup, ouais, enfin voilà. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un côté comique.
Non, mais je
suis d'accord avec toi parce que voilà, mais sauf qu'en réalité, les dégâts vont être très importants et on parle pas de dans 100 ans, on parle dans les 50 années qui viennent. Alors les scientifiques disent que ça peut rechanger parce que des fois on sait jamais, c'est quand même pas fiable à 100%. Mais n'empêche que voilà, aujourd'hui la fonte des pôles est beaucoup plus rapide que prévu. C'est l'être humain qui en est responsable, c'est le réchauffement climatique. Donc voilà, c'était juste quand même pour qu'on prenne conscience de ça. Et en fait, les scientifiques le disent, on n'est plus à l'heure de se dire comment on va le stopper, mais on est à l'heure de se dire comment on va vivre après. Mmh. Voilà, parce c'est que ça. Clairement, on peut plus stopper là.
Donc, oui, on va pas arriver à arrêter la machine.
Non, par contre, il faut pas aggraver. Hein.
Oui, il faut pas aggraver.
Mais il va y avoir des effets plus importants que ceux prévus par la COP 21. Voilà.
Eh bien,
Oui, je vous ai dit, ce soir, c'était léger et tout.
Ah ouais, c'est génial. T'as choisi quoi comme musique? Un truc morbide, ou ça?
Non, alors un truc qui va vous réveiller, qui secoue un peu, c'est du classique revu version métal.
Pouf, on y go.
Voilà, alors Tinago, elle s'appelle.
Eh ben dis donc.
Ouais, ça se coud, hein.
Ah, ça se coud.
C'est une violoncelliste américaine, voilà, qui alors qui fait pas que des trucs repris en métal, elle fait aussi du classique classique, même classique quoi, voilà. Et là, c'était, elle a appelé ce titre Queen Bee. En fait, c'est une reprise du Vol du Bourdon.
D'accord.
Ça, c'est le nom, voilà.
Okay.
Voilà, et c'était un essai comme ça, et juste quand même pour vous dire, c'est quelqu'un qui s'autoproduit depuis des années. Elle vient d'avoir un contrat avec Sony Classical, je crois, si ma mémoire est bonne, parce qu'elle a été repérée, parce qu'elle a été appelée par Hans Zimmer, qui est, je sais, j'avais fait une émission sur les musiques de films, pour faire le thème de Wonder Woman dans le film Wonder Woman, et puis dans Batman versus Superman. Et elle a trouvé un thème qui marque bien les esprits, et du coup, tout le monde s'est dit, bah dis donc, cette violoncelliste de 31 ans, elle est intéressante, elle fait plein de vidéos sur YouTube. Allez-y, c'est très sympa. Voilà, Tinago.
Eh ben nickel.
Bah ouais.
Eh bien, on est bien bien à l'heure.
Alors, oui, ça arrive rarement. Alors
ça arrive rarement.
C'est bien. On s'en remet pas d'ailleurs.
C'est étrange. On hésitait à vous faire des imitations, mais on se dit non, tiens, on n'est pas très bon dans ça, alors on va pas le faire. par contre, on va vous donner des rendez-vous.
On est bon quelque chose. On dit on n'est pas bon dans ça, mais je me demande qu'on est bon enfin.
Non, mais ça c'est sûr.
Ah d'accord.
Les imitations, c'est certain. Alors, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment sur Lyon, il y a le mois libertaire avec plein de choses qui se passent. Et donc, toutes les infos qu'on a cette semaine, c'est autour donc du mois libertaire.
Novembre libertaire.
Novembre libertaire, pardon. Donc, ça continue, hein, ça a déjà commencé depuis le 22 octobre. C'est pas très logique, mais d'accord.
On est mal, 22 octobre, oh, le mois de novembre.
Ça, c'était un.
C'est un côté nuit debout, tu sais, on est
ah,
le
oui.
2,076 mars, là.
Ok, donc ça continue. Donc mardi 8 novembre, c'est discussion sur la ville néolibérale. Lecture collective, commentaires et discussion de textes de géographes critiques sur les enjeux de la ville néolibérale. Ça se passera à la MJC Mon Plaisir et le rendez-vous est donné à 19h.
Mais on rappelait qu'elle est dans le 8e, la MJC Mon Plaisir.
Oui, pardon. Ouais.
Oui, bah oui, pour les gens qui chercheraient. Le 9 novembre, donc c'est le mercredi. et un débat lecture, l'appel au socialisme, pardon. Alors c'est une discussion d'un projet de société des sociétés. Voilà, je sais pas trop pourquoi c'est écrit comme ça, mais moi j'aime bien. Ponctué par la lecture d'extraits de Gustav Landauer, voilà. Et il faut aller sur le site pour avoir des infos en plus, parce qu'a priori ils n'avaient pas lu encore. Donc voilà. Donc le site, on le mettra, c'est lyonlibreweb.org/novembre-libertaire.
C'est voilà. Ça. Et on continue, enfin ça continue le jeudi 10 novembre, ça sera du théâtre cette fois-ci, Le dehors de toute chose, de et par Benjamin Maillet, écrit à partir du texte d'Alain Damasio, La zone du dehors. La représentation sera suivie d'une discussion avec l'éditeur et Alain Damasio. Le rendez-vous est donné à 20h au bar Les Clameurs. Ça c'est dans le 7e, c'est rue d'Aguesso, et c'est participation au chapeau.
Oui, et rappelez que Damasio est un très grand auteur de science-fiction anard. Et ouais. C'est vachement bien.
Alors, suite,
le 11
c'est
novembre, ça tombe plutôt bien parce que c'est le jour d'une fête qui n'est pas terrible. Projection débat antimilitariste avec 14-18, le bruit et la fureur. Alors cette projection de Jean-François Delassus et se passera à la Plume Noire à 20h. Elle sera accompagnée d'une discussion sur les différents projets des politiciens sur le service militaire. Bah oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y en a plein qui veulent nous le remettre, hein, ces bons vieux. Parce qu'il y en a qui voudraient qu'on ait une bonne guerre pour ces petits jeunes, et il y en a d'autres qui voudraient qu'on aille au service militaire.
Et puis ça forme les bonhommes, ça, non ?
Voilà, et donc la Plume Noire, j'ai perdu la rue.
C'est rue Diderot.
Rue Diderot, voilà,
rue
Diderot, pardon.
Sur les pentes de la Croix-Rousse.
Désolé, je suis fatigué ce soir.
Sur les pentes de la Croix-Rousse, et à la rigueur, alors ça n'a rien à voir avec le mot libertaire, mais vu que je vois que c'est sur la guerre 14-18, je vous invite à réécouter les lectures antimilitaristes que des animateurs et animatrices et des amis de Radio Canu avaient fait. Ça se trouve sur le blog de la causerie aussi. C'est des histoires, justement, enfin, c'est des témoignages sur cette saleté de guerre. Ça continue donc le mois libertaire, novembre libertaire, ça sera samedi 12 novembre, avec de la lecture comme un goût de cendre de réveil. Rendez-vous à 15h à la librairie La Griffe pour une lecture partielle du texte suivi d'une discussion. La Carole de l'écriveur sera présente sur le lieu.
Carriole.
La Carriole, pardon.
Pas Carole. Carole n'y est pour rien.
Et pourtant, j'ai mes lunettes. Enfin. Et allez-y, parce que c'est assez rigolo, cet écriveur. On a pu le croiser à une occasion. Et c'est assez rigolo parce qu'il écrit, il fait des petits livres lui aussi. Et qu'il dit qu'on peut tous faire des petits livres. Ils ne seront pas chez Gallimard, mais ça n'empêche pas d'écrire.
Tout à fait.
Voilà. Et. Vas-y.
Alors après, il n'y a pas d'autres infos pour cette semaine sur le mois libertaire, de novembre libertaire. Mais oui, on va être à l'heure, c'est ça qui est bien. Moi, je voulais juste rappeler que si vous êtes une association, si vous êtes quelqu'un qui fait de la musique, si vous êtes quelqu'un qui fait même de l'art au sens large, si vous avez des coups de gueule à passer, si vous avez des trucs politiques à porter et que vous pensez que ça colle avec l'esprit de l'émission quand même, c'est open ici, donc c'est ouvert, pardon, c'est mieux en français. Et lacausericanu@gmail.com. Voilà, ou sinon je vais donner le numéro de portable de Jean-Yves qui va être très content de vous. Non, je plaisante.
Non, mais sérieux. juste rappeler, si tu fais partie d'un parti politique, ne viens pas.
Oui, voilà. Hein?
Voilà, non, mais ça sert à rien parce qu'en plus, là, bientôt, il y a les élections, on n'a plus le droit d'avoir personne. Que si on reçoit une personne d'un parti, il faut inviter tout le monde. Alors, avoir le Front National, l'UMP ou LR. Sur Radio Canu, ça ferait quand même vachement chier. Quoi.
On est d'accord.
Voilà, comme ça vous comprenez aussi les lois, les règles du CSA. C'est bien aussi que tout le monde comprenne comment que ça se passe.
Ah oui.
Eh bien, on va peut-être pas tenir le micro.
Non. En tout cas, on va vous remercier de nous avoir écoutés ce soir. Ouais. Et nous allons nous quitter avec... Ah, c'était presque bien.
Oui, mais je l'avais pas pris par cœur. Avec Sinking Ship de Balthazar.
Ok.
Cool.
Voilà. Et bien, on se dit à la semaine prochaine. Ça marche. Bon courage pour la semaine à venir. Et la belle nuit, là, à cette heure-ci, dis donc.
Bah ouais.
Des bisous, tout ça.
Salut, salut.
Salut, ciao. Ciao.
been spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. From my pen you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Yeah, look at them run. How you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control, from the widest and purest to the whore of alcohol. Get to know your sad side again. We'll get to know your sad side again.